Deux chiens enjoués l'accueillirent tandis qu'il claquait la portière. « Salut les gars !» Monté sur pilotis, le River Lodge s'étendait le long de l'Okavango, une poignée de chalets et leurs terrasses au-dessus du cours d'eau, et plus loin, un camping ombragé où des tentes de luxe s'étalaient parmi la végétation. Seth évita les criquets armés qui, pour moitié écrasés, s'entre-dévoraient avec passion et se présenta à l'accueil. Prévenue de sa visite, la patronne l'attendait, une Allemande sympathique, quoique plus occupée par son jardin bio que par le turnover de ses employés. Enfin, Petrus, son gérant, saurait peut-être le renseigner. Seth observa les lieux pendant qu'elle allait le chercher. Une grande terrasse en bois donnait sur la rivière Okavango, que les Namibiens nommaient Kavango, avec un ponton vermoulu où paraissaient deux bateaux à coque plate et cinq rangées de sièges où l'on s'installait pour observer les hippos et les sauriens. « Attention aux crocodiles !» affichait une pancarte. Une coccinelle orange et noire dansa sur la manche de Seth, tourna sur elle-même pour dévoiler ses dessins avant de s'envoler. Petrus arriva bientôt, un solide herrero qui, malgré son air avenant, ne s'avéra pas d'une grande aide. À l'entendre, Xazé était un employé saisonnier sans histoire qui promenait les touristes le long de l'Okavango ou pistait les animaux à Wawata dans le cadre des activités proposées par le lodge. La pandémie ayant fait fuir les clients, ils avaient dû se séparer de lui un mois plus tôt en attendant des jours meilleurs. Le River Lodge tournait au ralenti, comme ils pouvaient le voir. « Xazé logeait dans le staff camp quand il travaillait ?» demanda Seth. « Oui, comme les autres employés. » « Et il ne vous a rien dit en partant, ce qu'il allait faire, l'endroit où il allait ?»«
Non, »
répondit Petrus. « Un autre employé pourrait me renseigner ?»«
Je ne sais pas, » fit le gérant. « Ils sont tous partis depuis des semaines maintenant. Mais Xazé s'était lié d'amitié avec Regan, un jeune imba qui servait au restaurant. Ils ont quitté le lodge ensemble, leur sac sur le dos. »
Le ranger nota le nom sur son carnet d'enquête rempli de dessins d'oreilles de rhinocéros qu'on marquait pour mieux les identifier.
« Regan, vous connaissez son nom de famille ?»«
Non, c'est le prénom qu'on lui a donné pour que les touristes étrangers s'en souviennent. Du coup, on l'appelait par son surnom. Et puis, les Imbas n'ont pas toujours d'état civil.
Il a un numéro de téléphone ?
Pas à ma connaissance, non.
Vous avez bien une fiche de paix ou des renseignements permettant de l'identifier ? Grogna le ranger.
Bah, on paie les saisonniers en liquide. La plupart des jeunes n'ont pas de compte en banque. Ils se débrouillent, comme tout le monde.
Les criquets armés se glissaient sous leurs pieds, suicidaires ou trop confiants dans la solidité de leur carapace.
Pas très légal, votre truc. Souffla Seth, un peu agacé à l'idée de faire chou blanc.
« Vous avez au moins une photo de ce Regan ?»«
Oui, je crois. »
Le ranger suivit Petrus jusqu'au lobby. Plusieurs photos étaient accrochées sur un coin de mur, avec les visages des employés souriant aux bras des touristes de passage.
« C'est lui, » dit-il en le désignant du doigt.
Un jeune noir aux cheveux courts, les traits presque féminins.
« Regan a quitté le lodge avec Xazé, » répéta le gérant du River Lodge. « C'est tout ce que je peux vous dire. »
Un début de piste. 3000 ans plus tôt, leur bétail décimé par la mouche Tsetse, les Bantous avaient déserté le cœur de l'Afrique et migré avec les bêtes survivantes jusqu'aux terres australes. Les Khoi et les San qui vivaient là avaient été chassés vers les montagnes et les régions arides avant que l'expansion des colons blancs et l'avènement d'une démocratie moderne finissent de les circonscrire dans des zones d'implantation permanente du Kalahari central. Des rails de chemin de fer disparaissaient dans l'herbe, datant de l'époque où Cecil Rhodes rêvait d'intégrer le Bechuanaland à l'Union sud-africaine pour mener son projet pharaonique de relier le Cap au Caire par le train. Les Khoi avaient revendiqué la restitution de leurs terres ancestrales à la fin des années 1990, obtenu quelques réparations territoriales au prix d'âpres combats juridiques, mais coupés depuis trop longtemps de leurs racines, beaucoup survivaient de bons alimentaires, sûrs que les quelques ânes donnés en solde de tout compte avaient été mangés par les lions. Déplacés selon les tracés des parcs animaliers, comme s'ils valaient moins que des bêtes, les Khoi étaient de moins en moins nombreux à parler leur langue. Beaucoup ne savaient plus chasser avec des arcs, encore moins sans chien, ni trouver les melons de Sama sous le sable pour traverser.